C'est le temps qui fait la panique.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC.
Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences.
Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Okapi.
Chers auditrices et auditeurs de C'est le temps qui fait la panique, bonjour et à nouveau, merci de vous avoir fidèles à l'écoute de ce programme, fruit du partenariat entre la Bénévolentia Grand Lac et Radio Okapi. Langage dur en période de crise, est-ce un langage pour la solution? C'est sur ce questionnement que porte ce numéro de ce magazine qui alerte sur l'inflation des paroles dangereuses en République démocratique du Congo.
Bonjour Babel, bonjour fidèles auditeurs. Eh bien, face à la persistance de la crise armée à l'est de la République démocratique du Congo, avec pour conséquence de nombreuses pertes en vie humaine, le déplacement des populations, la dégradation de la situation humanitaire ou encore du tissu socio-économique, plusieurs voix se sont levées pour dénoncer, appeler à l'arrêt des combats et des souffrances injustes infligées à la population de la sous-région, des voix appelant au dialogue et à la résolution pacifique, mais aussi des voix faisant preuve d'une certaine bravoure, des discours notamment des dirigeants et leaders politiques et des militaires tenus sur un langage dur, un ton belliqueux, des propos qui font l'apologie de la force et de la suprématie, des accusations, des menaces les uns contre les autres, distillées publiquement ou ouvertement à travers les médias et relayées par les réseaux sociaux. Bref, on assiste au développement d'un langage qui milite pour une solution par la force.
Eh bien René, pourquoi assiste-t-on à une inflation de ce type de langage en période de crise et particulièrement en ce moment où, malgré de nombreuses tentatives de dialogue ou par la diplomatie, le conflit armé dans l'est du Congo prend une ampleur plus qu'inquiétante? Et quel danger lorsque dans ce contexte, ce ton belliqueux qu'on entend d'un côté et de l'autre, peut-il ce langage de bravoure constituer une réponse adéquate à cette crise? Question que se pose ce magazine qui reçoit comme unique invité Maître Gloire Manissa, porte-parole de Action citoyenne de lutte contre le discours de haine. Bonjour Maître Gloire Manissa.
Bonjour Madame Rebel et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Nous allons commencer par suivre ce premier extrait de notre feuilleton qui nous donne une illustration du thème de notre magazine. Suivant.
Viens-tu à cette heure de la nuit, hein? En torse nu et tout en sueur comme ça, c'est quoi?
Ma chère Mouta, je viens de faire un exploit. J'ai réalisé plus de 150 pompes, tu
mais
t'imagines?
Mais pour quelle finalité? Je ne te connais pas si sportif quand même.
Il a fallu que je m'y mette, il a fallu. Maintenant là, je me sens plus fort qu'un roche. En tout cas, malheur à l'ennemi qui osera se pointer sur mon chemin.
De quel ennemi parles-tu? Parce que je suis un peu perdu. Tu parles de qui?
Ah, Naoye, hein? T'as oublié que notre association et celle d'Ombouy et membres sont en conflit.
Ah oui. Je me rappelle que c'est depuis que ces malhonnêtes avaient voulu détourner notre financement.
Évidemment. En plus, comme si cela ne suffisait pas, Mbouy avait osé qualifier notre association comme celle des idiots.
Mais heureusement que toi, tu n'avais pas tardé à réagir à ces propos méprisants-là.
Non, tu ne peux pas t'imaginer combien j'étais fier quand je leur avais rappelé qu'une souris n'a pas intérêt à se mesurer à un lion. Parce que pour un lion, un seul doigt suffit pour remettre la souris à sa place.
J'ai entendu.
Serait-il en train de nous défier ou comment?
Mais Maintenant, je me sens plus fort qu'un rocher. En tout cas, malheur à celui qui osera se pointer sur mon chemin. Assurance et détermination ressortent de la déclaration de l'un des étudiants. Et Maître Gloire Manissa, est-ce que le fait de tenir un langage qui montre qu'on a le torse bombé, qu'on est prêt à se battre, relève d'une stratégie à laquelle on recourt en temps de conflit pour intimider en jouant de la ruse? Quel est finalement, Maître, l'objectif derrière ce type de discours que l'on peut qualifier de discours de bravoure?
Merci beaucoup, madame la journaliste. Je pense que à la fois qu'on en arrive, que vous nous permettiez un peu de circonscrire la notion de conflit, parce qu'elle va nous permettre de comprendre les mobiles qui poussent les gens à ce qu'est un conflit dégénère et qui s'amène à la violence. C'est d'abord une notion. Et il faut le définir comme un état de tension ou de dissonance entre individus, entre les groupes d'individus, donc les organisations, les communautés, les sociétés, les États, qui s'opposent autour des intérêts, qui s'opposent autour d'une valeur, d'une croyance ou encore de la pression ou la peur qui naît de quelque chose. Et que ce sont les hommes qui s'opposent. Mais quand ils s'opposent, ils manifestent effectivement leur opposition de plusieurs manières. Et les plus grandes manières en vogue actuellement, ce sont les méthodes de l'intolérance, les méthodes de l'intransigeance dans les propos, dans les discours qu'ils tiennent les uns vers les autres. Vous l'avez dit dans votre introduction maintenant. Cette attitude qui part des armes au langage, où les gens se tiennent des propos intolérants envers eux. Et qui pensent qu'il faut avoir un extrémisme langagère pour dompter l'autre. Et effectivement, ces moyens, il est utilisé croyant qu'il amène à convaincre l'autre qu'on est plus puissant que lui, mais au contraire, il est encore très nuisible parce qu'il n'aide pas à trouver des solutions, il n'aide pas à trouver le mécanisme qui résolve le problème. On dit dans la charte de l'UNESCO que les guerres prennent naissance dans les esprits des hommes. C'est dans les esprits des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Ça signifie que c'est dans l'homme, dans les propos, c'est dans les attitudes, les comportements, les faits que nous posons que naissent la guerre. Et c'est également dans les esprits des hommes qu'il faut cultiver la paix. Ça veut nous dire que ces langages-là que certains tiennent pendant la guerre, ils croient que c'est un langage qui apporte une solution, mais elles ne sont pas des solutions. C'est un moyen pour intimider, pour dissuader l'autre, mais ce n'est pas forcément une solution parce que le langage tel qu'il sort, il est incendiaire et il apporte toujours la dégénérance de conflits.
Oui, maître, est-ce qu'on peut carrément parler d'une stratégie politique qui consiste à se donner confiance, à rassurer la population, au contraire à brandir des menaces contre les camps adverses?
Oui, effectivement, c'est une stratégie. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a un jargon qui est presque utilisé par tout le monde, dit que la guerre, elle est avant tout psychologique, elle est médiatique également. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui trouve que l'excès de propos irrévérenciés ou des propos dominants dans les réseaux sociaux soit psychologiquement les effets de la guerre. Et nous les vivons effectivement aujourd'hui dans notre pays, dans le cadre de la crise sécuritaire que nous avons à l'Est. Vous voyez que c'est presque au-delà des armes, au-delà des atrocités qui se passent sur les champs de bataille, c'est une guerre des mots, un jeu de ping-pong qui va de l'autre côté, au niveau de la République démocratique du Congo, mais également au niveau du Rwanda. Il y a des comptes, des groupes dans les réseaux sociaux, des comptes fictifs qui sont créés pour faire cette guerre des mots-là. Et les dirigeants, tant du Rwanda que de notre côté, ou d'autres pays de la sous-région qui sont impliqués dans ces conflits, utilisent ces propos à des volets pour dissuader l'adversaire, mais de l'autre pour mater, pour soigner la psychologie des populations. Une population qui est déjà presque au bout de ses moyens, qui n'a besoin que de la paix, ou qui est exacerbée par le fait que les violences soient toujours récurrentes. Et comme il n'y a pas de moyens, de solutions efficaces de façon palpable, certains recourent plutôt à des solutions psychologiques qui consistent à tenir certains discours qui attirent la confiance de la population.
Oui, maître.
Nous pouvons effectivement confirmer, vous avez raison, que c'est un moyen, c'est une stratégie qui permet à maintenir la population dans une certaine confiance par rapport à une situation qui est en train de dégénérer réellement sur le terrain.
Oui, maître, est-ce normal que ce langage qui est plutôt militaire soit adopté par des politiciens, mais aussi par la population? Est-ce qu'on peut dire que le contexte de conflit armé ou toute autre forme de tension et les conditions dans lesquelles ce conflit est vécu peut justifier le recours à ce type de ton belliqueux, de langage dur?
Non, ce n'est pas normal parce que dans la situation comme telle que nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo, ce n'est pas une situation qui est une fiction, c'est une situation réelle où il y a de pertes en vie humaine, il y a des populations qui sont en train de vider leur village, contraints à vivre à la belle étoile, certains sont en train de mourir du jour au lendemain. Si la politique s'invite dans la gestion des aspects sécuritaires du pays, ça effrite la réalité de la situation sur le terrain et ça ne permet pas à la population de prendre effectivement conscience du rôle que chacun doit jouer pour que la paix revienne dans les pays. Parce que la politique, lorsqu'elle s'invite dans une situation, c'est pour occulter la vérité. La politique telle qu'elle se passe dans notre pays, dans la sous-région, elle n'est pas une politique qui a une dose de moralité. Et donc, quand la politique s'invite, surtout dans les contextes de notre pays, elle vient instrumentaliser des questions sécuritaires à des fins politiques. C'est pourquoi vous voyez que nous avons des réactions spontanées et parfois violentes de la part de certaines couches de population qui, à force d'accumuler beaucoup de désinformations autour des questions sécuritaires, vont s'attaquer aux personnes ou aux institutions, aux établissements qui ne sont pas directement responsable des problèmes que nous vivons. Je vais ici parler des récentes manifestations ou des récentes déclarations, commentaires, attitudes que nous lisons dans les réseaux sociaux des populations congolaises à l'égard de certains partenaires du pays. Les semaines passées, nous avons vu des gens aller casser les missions diplomatiques, nous avons vu les gens aller casser les véhicules de la MONUSCO, ont également été brûlés, parce qu'il y a un langage politique, c'est une instrumentalisation des politiques qui, pour couvrir les responsabilités de la République démocratique du Congo, de l'État congolais, face aux réponses qu'il faut donner aux problèmes sécuritaires, rejette la responsabilité des autres. Et cette manipulation-là entraîne un ras-le-bol, un sentiment de xénophobie auprès des populations congolaises.
Merci,
maître. C'est un danger pour le retour même de la paix, parce que nous savons, par exemple, que les forces de la MONUSCO sont avec le FARDC dans l'opération Springboard à Sake, mais de l'autre côté, nous fragilisons ceux qui viennent nous secourir. Soit à dire que nous sommes en train d'être tués et ils sont en silence.
Oui, merci, maître. Nous allons continuer sur ce thème-là. En attendant, suivons d'abord le deuxième extrait de notre feuilleton afin de nous rendre compte des risques probables derrière le recours à ce langage dur et extrême.
Mais, regardez-moi ces connards, hein. Croyez-vous effrayer quelqu'un avec votre pauvre chansonnette?
Vous là.
Y'a quoi?
Je vous déconseille de nous provoquer.
Sinon,
dites-le, vous allez faire quoi?
Je vous conseillerais de renoncer au financement. Oui, parce qu'au sein de notre association, nous sommes plus rapides que l'éclair.
Ah, je vous préviens.
Non mais laisse-le. Laisse-le, le Tikabango. Tikabango va s'arrêter, m'inquiète. Ils doivent comprendre qu'avec leur quotient intellectuel médiocre,
pardon,
ils n'auront même pas le temps de se rendre compte de ce qui se passe. Parce que avec le financement, leur aura déjà échappé de main.
Vous savez quoi? Nous n'avons pas peur des tonneaux vides qui font seulement du bruit là.
Qui tonneaux vides?
Vous êtes des tonneaux vides.
On te fait malade?
Parce que vous-même, vous savez que vous ne méritez pas ce financement. Ils savent, non?
Oui. D'ailleurs, ni facile, ça n'a qu'un yamaï chez ma tonneau vide. Et tu sais comment est-ce qu'on les fait? À casser ces tonneaux.
Exactement.
Nous sommes des braves, des vrais concasseurs. On va vous casser ici.
Non, attends, tu as dit quoi?
Mais tu as entendu.
Non, répète un peu.
Tu l'as entendu. Vous êtes des tonneaux vides.
Attention, elle va te lancer la pierre. Tu as dit quoi?
Mais Kitoko, on a dit qu'à fond, nous. Ah ouais, hein? Regarde ce que tu viens de faire. Tu viens de casser la fenêtre de notre salle de classe.
Mon Dieu, mais Kitoko.
Adopter un langage qui tend plus à défier l'autre, à vanter ses capacités de nuisance, comme on vient de le suivre dans cet extrait, accroît le risque d'embrasement, d'intensification des violences et donc plus de violences et de souffrances. Bref, plus de victimes. Maître Gloire Manessa, considérant la crise armée dans l'est du pays, pour vous, quels peuvent être les probables scénarios qui peuvent se produire lorsque les protagonistes durcissent le ton les uns envers les autres, adoptent un discours de défiance, un discours qui met en avant la bravoure des uns face aux autres? Nous savons savoir qu'il y a une expression qui dit « quand on ne peut plus tirer avec des mots, on prend des fusils ».
Oui, l'une des stratégies de la manipulation de la population, c'est d'infantiliser le public. Et c'est cette stratégie-là à laquelle recourent souvent les acteurs politiques pour inculquer dans la population certains discours qui les maintient dans la distraction et qui les désorientent des vraies questions du pays. Et les réactions probables qui peuvent naître, surtout dans les cadres de la guerre à l'est de notre pays, c'est cet effritement de la cohésion sociale, c'est aussi l'effritement de la paix, parce que les populations qui se sentent seules face aux difficultés qu'il y a dans les pays et qui ne se sentent pas protégées ni par leurs gouvernants, moins encore par ceux qui sont dans les pays comme partenaires de la paix, mais plutôt qui sont manipulés, ils vont développer ce sentiment de recourir à la violence. Et nous les voyons aujourd'hui dans notre pays, aujourd'hui même à Kinshasa, partout en République démocratique du Congo, il y a un sentiment presque anti-rwandais, un sentiment anti tout ce qui est organisation internationale qui naît et qui est en train de prendre beaucoup de l'ampleur. On ne peut pas s'accepter aujourd'hui entre membres pays de la sous-région, les citoyens qui vivent entre et à l'est, entre les Burundi, l'Ouganda, les Rwanda, la RDC et Goma. Les gens vivent des échanges commerciaux, des échanges économiques. Et vous allez voir qu'avec tout ce qu'il y a comme tollé des discours, des part et d'autre, des dirigeants dans les pays, ces relations économiques-là où qui font vivre des ménages, qui font étudier des familles, ne sont plus vraiment au beau fixe. Aujourd'hui, donc il n'y a pas la même ampleur qu'il y avait avant. Il y a beaucoup de populations qui éprouvent assez de difficultés pour tenir leurs petites économies comme c'était avant. Aujourd'hui, on ne peut plus s'accepter. Vous ne pouvez plus être dans un même lieu, partager facilement avec un citoyen de notre pays voisin ou encore un citoyen congolais qui a un faciès. Je parle des faciès Tutsi, par exemple. Aujourd'hui, ils sont pris tous comme des rebelles, tous comme des terroristes, tous comme ceux qui veulent mettre de feu ceux qui viennent tuer, qui viennent insulter la République démocratique du Congo, et des individus qui sont aussi des individus paisibles en souffrent terriblement dans leur forte intimité. Ça signifie que ces propos-là, ces sentiments-là effritent la paix. Ça cause des violations des droits de certains citoyens qui ne peuvent plus jouir de leur liberté de vivre dans un pays qui est l'air ou dans un pays où ils ont choisi comme seconde nation ou pays de vie, parce que seulement il y a une intoxication, il y a un sentiment qui est inné des discours politiciens qui les instrumentalisent.
Oui, maître Manessa.
Ces propos,
oui, maître Manessa, oui. Vous épinglez le fait que ces discours est parfois manipulateur et vous l'avez dit, infantilise quelque peu la population. Quel est l'impact justement que ces discours a sur cette population? Y a-t-il risque que cette dernière, d'ailleurs victime de ces conflits, puisse adopter ce langage des leaders et qu'elle se livre à des actes de violence? Bref, on va dire en un mot que là, on a affaire à un langage dangereux qui incite à un comportement, je vais dire, va-t'en-guerre.
Oui, mais je vais illustrer ça, je vais donner un exemple. Nous avons tous vu récemment, au mois de janvier, à la Cannes, vous avez vu que lorsque les discours politiques à partir de l'intérieur ont atteint les joueurs qui étaient en Côte d'Ivoire, qui commençaient à faire des gestes patriotiques en faveur de la guerre qu'il y a à l'est de notre pays, ça commençait à soulever la conscience nationale ici. Lorsque certains membres du gouvernement, lors d'une réunion du Conseil des ministres, ont fait le même geste, le lendemain, qu'est-ce qui s'en est suivi? Les scènes de violence dans la ville. Ça signifie que ce sont des propos comme ça qui incitent. C'est d'ailleurs ça même les mots incitation à la révolte, incitation à la haine, incitation à la violence. Et c'est le plus grand danger qu'il y a dans la commission d'actes criminels. Ces comportements-là faits par des autorités hautement placées ont été interprétés de façon diverse par la population. Certains ont dit que comme nos dirigeants nous disent qu'ils ne sont pas capables, que nous sommes en train d'être tués, que nos adversaires sont ceux qui se disent nos partenaires, nous, peuple, on va se prendre en charge, nous allons aller nous attaquer à ceux-là. Et qu'est-ce qui s'en est suivi? C'est la violence. C'est un exemple, un fait très patent de nos dirigeants. Ça signifie que si les dirigeants avaient plutôt tenu des propos ou des comportements responsables, la population suivrait également par cette responsabilité. Mais parce qu'elle a été manipulée, elle s'est comportée directement en violence. Et la violence, personne ne tire profit de la violence.
Merci maître. Nous poursuivons avec le troisième et dernier extrait du feuilleton pour voir si un discours de bravo peut aussi être un moyen efficace pour trouver des solutions à une crise, fût-elle armée.
sincèrement de m'excuser. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. En fait, je n'aurais jamais imaginé que ça pourrait aller jusqu'à ce qu'il y ait de casse. Mon Dieu.
Malheureusement, c'est trop tard.
Mais comment ça?
Mais c'est trop tard. Il a fallu avoir ses réflexes depuis longtemps.
Non, mais tout a commencé avec un simple sentiment de fierté pour notre association.
Quelle fierté?
Je suis vraiment désolée.
Mais et alors? C'est de cette manière qu'il fallait exhiber cette fierté? Hein? Et si cette pierre avait blessé Amani?
Je suis désolée.
Si cette pierre avait blessé Amani, tu imagines l'ampleur du problème que tu aurais créé, Kitoko?
Oui, mais je suis vraiment...
Mais non, pas les dégâts que ça allait causer.
En fait, lorsqu'il y a eu cette rivalité entre notre association et la vôtre autour du financement, nous voulions à tout prix prouver que nous sommes les meilleurs.
C'est vrai.
Oui.
C'est vraiment vrai ce qu'elle dit. Et nous sommes vraiment désolés pour ça. Lorsque les responsables lançaient ces paroles de bravoure tellement exagérées, nous les avons reprises sans même réfléchir.
Oui,
et voilà maintenant les conséquences.
C'est vraiment dommage. Vraiment, il y a Ozun. De notre côté, on s'est senti provoqué. Nous avons voulu riposter en suivant l'exemple de notre responsable pour prouver que nous sommes les plus forts.
Merde. Je suis tombé dans les pièges de ces langages très des bravoures. En fait. Et maintenant, où ça nous mène?
Je te jure, Kito, c'est nous-mêmes qui allons être tenus responsables pour les dégâts que nous venons de causer. Et non nos responsables.
Pardon? Donc, c'est moi qui dois payer la fenêtre?
Ben ouais,
mais oui,
évidemment.
Non, c'est qui va payer ça?
Il est des principes qui cassent pas.
Excuse et regret face aux conséquences plutôt fâcheuses de ce langage de bravoure, langage dur. En tout cas, c'est ce qui ressort du tableau que nous venons de suivre. Mais de l'autre côté, on sait aussi que ça peut être une stratégie pour dire à l'adversaire, attention, je suis capable de te répondre ou même de t'écraser, disons-le. Maître Manissa, est-ce là un moyen efficace pour résoudre un conflit, de faire baisser la tension? N'est-ce pas que privilégier un langage diplomatique qui n'est pas signe de faiblesse, un langage qui favorise la discussion, peut aussi être une approche encore plus efficace qu'une rhétorique belliqueuse, en considérant bien sûr les conséquences d'un conflit armé sur les populations. Et puis, est-ce qu'une approche plutôt diplomatique, un rapprochement, est-il toujours possible lorsque les protagonistes d'une crise font usage d'un langage plutôt dur et agressif, maître?
Oui, merci beaucoup, madame. Et il est toujours dit que mieux vaut un arrangement à l'amiable et qu'une solution judiciaire est juste. Ça signifie la justice, même si elle est rendue en faveur de quelqu'un, en faveur de l'autre, elle laisse toujours des stigmates de haine et de violence. Et que si tout est trouvé par une résolution à l'amiable, ça passe toujours bien. Cela veut dire que les propos de bravoure, oui, c'est bien. Dans notre pays, d'abord, nous en avons un très grand exemple. Notre pays, la République démocratique du Congo, a un peuple fort, a un peuple qui l'a toujours sauvé par notre propre bravoure. Nos compatriotes de l'Est, malgré toutes les tueries, malgré toutes les exactions, malgré toutes les difficultés qu'ils subissent, mais ils ont toujours ce courage-là, cette détermination-là, cet acquis les attache à la République démocratique du Congo. Et c'est ce qui a même fait que plusieurs tentatives des balkanisations de notre pays échouent. Mais aujourd'hui, plutôt, la manière, la méthode où nous sommes en train de vouloir utiliser ce patriotisme, ce langage patriotique-là, est une méthode qui va vers l'extrémisme et qui nous pousse nous-mêmes à commettre beaucoup d'autres dégâts. Les discours diplomatiques, la méthode diplomatique est la mieux conseillée pour résoudre les conflits. Les plus grands conflits au monde ne se résolvent que par des méthodes diplomatiques. Et dans ces méthodes diplomatiques, la plus grande chose à retenir, c'est d'accepter des concessions et d'éviter des discours incendiaires, des propos triomphalistes qui mettent des bâtons dans la roue de ces négociations-là. Nous sommes aujourd'hui dans une situation dans notre pays, cette situation de guerre, je l'ai dit avec conscience à l'étude de tous les paramètres sociopolitiques, les paramètres économiques et les paramètres diplomatiques, il n'y aura aucune solution paisible pour notre peuple par la voie belliqueuse. C'est seulement la voie diplomatique, la voie du dialogue qui va nous permettre de résoudre les conflits qu'il y a à l'est de notre pays. Mais oui, cette voie du dialogue-là, elle doit respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de nous. Notre pays, aider, elle doit se faire sans excès de zèle. Je suis écœuré de voir que les propos qui se tiennent, et par nos dirigeants, et par
les autres dirigeants de la sous-région et par nos populations à nous à l'interne ici, ce sont des propos qui ne favorisent pas cette paix-là.
Oui, maître, pour terminer, maître Manessa, pour terminer, comment finalement pouvoir sortir de ce clivage qui est créé à cause de ces langages, en tout cas les clivages entre les communautés, comment pouvoir finalement rassembler et rapprocher les gens séparés par la crise, mais aussi une crise attisée par un langage dur, un langage belliqueux comme vous le disiez.
D'abord, la première recette, c'est qu'au niveau de l'État, l'État doit veiller à ce que ces propos, ces communications par rapport à cette situation de la guerre qui a laissé le pays ne soient pas des communications incendiaires, politiquement motivées pour soulever les uns contre les autres. L'État est aux antipodes de toutes les tendances. L'État doit se placer au-dessus de tous les impératifs afin de ne communiquer que pour préserver la paix et l'équilibre social des vies dans le pays. On ne peut jamais tolérer que des acteurs, des messages incitatifs à la haine, à la révolte et à la violence soient plébiscités comme des patriotes, alors que leur message qu'ils larguent dans la communauté attise la violence et allume les feux et crée des situations dans le pays. Donc la sensibilisation, il faut sensibiliser les communautés, il faut sensibiliser les populations à discerner, avoir un esprit de discernement face à tout discours que nous écoutons, et à savoir extirper de ses propos ce qui nous divise. Sans cela, parce que on le dit, oh, les acteurs de ces propos sont les acteurs politiques et les acteurs institutionnels. Les acteurs politiques de tous bords, position majorité, ils sont trop dans des discours triomphalistes. Ils sont trop dans les récupérations. Toute action pour la sécurité, toute action pour la paix du pays est inféodée par les visées politiciennes des récupérations, et c'est ce qui amène à des frustrations qui est là.
Merci,
si la
maître.
Démocratie est réellement exercée dans notre pays, nous n'allons pas continuer à vivre ces problèmes et nous allons tant soit peu résoudre ces fléaux que les paroles divisionnistes créent dans notre pays.
Merci, maître. Vous appelez donc l'État et les acteurs politiques à éviter tout discours incendiaire et également à éduquer la population pour avoir un esprit critique. Voilà, c'est la fin de ce Le Temps qui fait et la panique au numéro accès sur le recours à un langage dur, un discours de bravoure en période de crise, une rhétorique belliqueuse adoptée depuis un certain temps par des protagonistes dans la crise armée dans l'est du Congo René.
En effet, Babel, brandir la menace et ses capacités à nuire à l'autre, réagir aux attaques en adoptant une rhétorique belliqueuse, c'est bien montrer qu'on est capable de faire face. Seulement, disons-le, cette rhétorique adoptée par les acteurs de la crise dans la région des Grands Lacs et qui peuvent avoir pour conséquence l'intensification des violences et les souffrances de la population victime de cette crise, ne devrait pas prendre le dessus ni fermer les portes à toute initiative de rapprochement par des voies diplomatiques, par un dialogue qui épargne les populations des souffrances indescriptibles, bref, par un ton qui fait taire les armes et participe à la reconstruction du vivre ensemble.
C'est Le Temps qui fait la panique, en partenariat entre la bénévolence à Grand Lac et Radio Capi, pour vous alerter sur l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Nous disons merci à Maître Gloire Manessa, porte-parole des actions citoyennes de lutte contre les discours de haine, ACLDH. Merci également à vous, fidèles auditeurs et auditrices. Nous prenons rendez-vous vendredi prochain à 8h30 de Kinshasa pour un nouveau numéro. En attendant, retrouvez ce numéro en rediffusion samedi 11h05 ou 19h05, toujours sur Radio Capi ou à tout moment sur radiocapi.net et abari-rdc.net. N'oubliez pas de nous faire parvenir vos réactions et commentaires sur les pages Facebook, Twitter et SoundCloud de Radio Capi et abari-rdc. Encore une fois, merci. Au revoir.
C'est Le Temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Capi.